Alors, si j'avais eu des doutes sur le caractère inspiré de ce message, j'en ai plus eu à partir du moment où j'ai entendu le thème de la présidence de Vincent. Ça me rassure. Alors, je tiens à m'excuser d'avance auprès des jeunes. Il y aura des choses qui seront redites pour vous, mais il y aura du nouveau aussi. Et à la fin, je viendrai vous voir pour voir si vous avez bien suivi, que vous avez vraiment tout capté le nouveau. Qui de vous part en vacances? Qui de vous rêve de partir en vacances? Nous avons tous une destination rêvée en tête. Et si vous n'avez pas assez de rêves dans votre tête, je peux vous en donner un petit peu. Est-ce que vous avez vu le film de Hayao Miyazaki? Je suis désolée, je ne parle pas japonais. Qui s'appelle Un château dans le ciel. Ça vous dit quelque chose? Bon, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une petite perle cinématographique que je vous conseille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est les vacances, que les châteaux, ça fait rêver. Et puis aussi, parce que cette semaine, mon fils André, qui a un peu de retard dans l'apprentissage de ses versets, a mémorisé Jean 11, 25. Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Quel mot barbare. Résurrection. Quatre syllabes. Pas facile quand on a 5 ans. Et alors, question évidente. Mais maman, qu'est-ce que ça veut dire résurrection? Alors, qu'est-ce que ça veut dire résurrection? Vincent en a parlé tout à l'heure.
Revenir à la vie.
Revenir à la vie. À quoi vous pensez quand je dis résurrection?
À nouveau, encore une fois, surrection, se lever.
Se lever à nouveau.
Revenir de la mort.
Revenir de la mort. Et la vie alors? Revivre. Alors ce sera comme avant. Ça, c'était la réponse d'André. Qu'est-ce qui change? Ça change quoi, la résurrection? Alors là, le blanc, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? On n'est plus soumis à la mort. On continue comme avant. C'est pareil, mais en mieux. C'est pas loin. Alors moi, j'ai répondu, une fois qu'on va vivre après la résurrection, on va vivre chez Jésus. Au ciel. Et où on va quand on va au ciel? Et c'est comment chez Jésus? Dis-moi, maman, c'est comment chez Jésus? Ah, ça. Il m'a déroulé le tapis rouge. Parce que parler de chez Jésus, c'est quelque chose que j'aime faire depuis que j'ai l'âge de 3 ans. C'est pour ça que je me suis convertie. Alors, permettez-moi de vous emmener faire un petit tour chez Jésus. Et vous verrez que ça dépasse de loin toutes vos destinations rêvées de vacances. Et vous verrez pourquoi je vous ai parlé de ce fameux château dans le ciel. Alors, est-ce que vous êtes bien installé dans vos fauteuils, j'allais dire de cinéma, mais d'église? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir ici de vous présenter le synopsis d'un documentaire d'animation céleste des studios Yahweh, réalisé par Emmanuel Joshua, intitulé « Une cité dans le ciel ». Et pour ceci, je vous propose d'ouvrir vos Bibles Apocalypse, chapitre 21. Et comme je vais beaucoup parler ce matin, y a-t-il quelqu'un qui voudrait nous faire la lecture? Par contre, je n'ai pas de diaporama.
Tout le chapitre.
Tout le chapitre, on peut le couper en plusieurs morceaux.
Merci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes ces choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Merci Maxime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre verset 9 ?
Puis un de cet ange qui tenait les sept coupes remplies des sept deniers, dernier fléau, vint. Il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre d'une jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alors, à l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre verset 18? Oui, vas-y.
La muraille était construite en jade et la ville était en or pur, transparent comme du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jade, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de cornaline, la septième de chrysoprase, la huitième de beryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième de hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme une verre transparente.
Alors on va laisser te reposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien finir verset 22?
Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire du Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront jamais fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'en fera chez elle rien de souillé, une personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'en fera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de la vie.
Merci. Alors, vous verrez, je ne finis pas la description de la ville, puisqu'elle finit au verset 5 du chapitre suivant, mais je vous invite à lire la fin, elle est quand même remarquable. Alors, vous avez remarqué que la description de la cité qui est faite ici, de la cité des Célestes, ne correspond évidemment pas au fameux château dans le ciel de Miyazaki. Ouf. Ni à celle de la capitale judéo-palestinienne éponyme dont nous voyons les images dans les informations. Dans ce texte, il est question d'une ville tombée du ciel, comme un cadeau. Une ville merveilleuse, toute faite de pierres précieuses, de perles fines, d'or et de cristal. Alors, ça vous fait rêver ? Moi, ça m'a toujours fait rêver, cette ville. C'est mieux que toutes les destinations de vacances, vous en conviendrez. Les conquistadors rêvaient de l'Eldorado, ils ne savaient pas qu'il existait. Il existe. Peut-être, vous pensez que cette ville, c'est de la science-fiction. Eh bien, ce n'est ni de la science-fiction, ni une promesse, ni une espérance lointaine. C'est une réalité dont l'accomplissement se fait dès à présent au milieu de nous. Et là, vous me dites, Karen, nous parlons de la fin des temps. Tu es sûre que nous avons lu le même texte ? Eh oui, nous avons lu le même texte. Mais pour expliquer mon propos à ce sujet, je vais mettre ce texte d'Apocalypse 21 en parallèle avec le passage d'Éphésiens 2, les versets 16 à 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous lire ce passage ? Il est très court, rassurez-vous. Ah là, j'ai plus de volontaires. Je vais devoir le lire moi-même. Alors, c'est Éphésiens 2, les versets 16 à 22.
Et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit.
Merci. Là, vous vous dites, Karen, les deux passages, ils ne parlent pas de la même chose. L'un parle de la Jérusalem céleste, celle à venir chez Jésus, comme dit André, et l'autre. De quoi parle l'autre ? Là, je vous ai tous perdus. Le temple de Dieu. Et c'est quoi ce temple de Dieu ? Nous, l'Église. Paul parle de l'Église, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et là, ça fait tilt chez vous. Parce que dans Apocalypse, dans le verset 2, ça commence par « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Cette histoire d'époux et d'épouse, on l'a déjà entendue quelque part. Jésus en a déjà parlé. Qui est l'épouse ? Qui est cette épouse dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul ? C'est l'Église. La Nouvelle Jérusalem et l'Église ? Bizarre comme parallèle. Effectivement, le thème de la mariée est récurrent dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église. Et d'ailleurs, la voix qui annonce comment se nomment les habitants de cette nouvelle Jérusalem céleste les appelle le peuple de Dieu. Ils seront mon peuple. Là encore, c'est un terme qui, dans l'Ancien Testament, désigne Israël, mais dans le Nouveau Testament, désigne l'Église, la communauté de tous les croyants, de tous les âges. Et enfin, verset 7, Jésus parle de ses fils, ce qui reprend l'idée de la famille de Dieu. Ça C'est encore un terme qui désigne une église. Et si l'église était une préfiguration de cette Jérusalem céleste? Alors, pour commencer, regardons le nom de cette cité qui descend du ciel. Jérusalem. En hébreu, alors là je vous prie de m'excuser, Yerushalayim signifie littéralement le fondement de la paix. Ce n'est malheureusement pas le cas pour la Jérusalem terrestre, comme nous le savons. Mais c'est le cas de cette Jérusalem céleste, la ville sainte qui vient de Dieu, où réside la paix véritable. La paix et la réconciliation avec Dieu, la paix et la réconciliation qui viennent de Dieu, la paix pour notre corps, pour notre âme, pour nos relations. Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » D'ailleurs, Ésaïe 9, 5, on retrouve cette notion de paix attachée à Dieu, à Jésus même, qu'on nomme le prince de paix. Et n'est-il pas décrit dans notre passage comme siégeant sur le trône? Il est donc le prince de cette ville céleste. Mais Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et là, vous me direz, certes, Karen, personne ne s'attendait à ce que la paix mondiale venant de Dieu descende tout droit du ciel sous la forme d'une cité. C'est original. Mais cette paix, il ne faut pas l'attendre venant du ciel. Elle est déjà en nous. Et c'est ce que Éphésiens 2, versets 16 à 17, nous apprend. Il voulait ainsi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Et j'aime bien cette double lecture. Il voulait les réconcilier les uns et les autres entre eux et avec Dieu. Ainsi, il est venu annoncer la paix. Là, on retrouve ce thème de la paix. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Cette paix de la Jérusalem céleste, qui sera parfaite une fois que nous serons avec Jésus, nous l'avons déjà en prémisse, si nous avons Jésus dans notre vie. Alors, la cité céleste. Une cité venue du ciel tout en or, en pierres précieuses, en perles et en cristal. Ça fait rêver, non? Un jour, j'ai discuté avec un camarade de fac au sujet de l'au-delà. Et il me disait qu'il n'avait aucune envie d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que ça allait être ennuyant, ça allait être ennuyeux. Alors, passer son temps sur un petit nuage rose avec une harpe à chanter les louanges de Dieu, franchement, il m'a même dit qu'il préférait aller en enfer, qu'on s'y amuserait certainement plus. Ah oui, Satan a réussi à déformer la belle réalité de l'au-delà en quelque chose de fade et d'ennuyeux. Ça, c'est quand même un comble. Belle réussite, n'est-ce pas? Et alors, si quelqu'un vous dit « je n'ai pas envie d'aller dans l'au-delà parce que ça va être ennuyeux », ou si quelqu'un vous dit « l'au-delà, je ne sais même pas à quoi ça ressemble », prenez votre Bible, relisez-lui ce chapitre. Et après, vous lui demanderez « alors, tu penses que ça vaut le coup d'y aller ou pas ?» L'image que Dieu révèle à Jean de l'au-delà est tout autre. Dieu ne parle ni de nuages, ni de harpe obligatoire pour tout le monde. L'image qui nous donne de la vie éternelle est celle d'une ville. C'est très original. Une ville. Rien ne représente mieux la vie et l'activité humaine qu'une ville. C'est un endroit où l'on rencontre des gens, un endroit où on s'amuse, où on travaille. L'image de la ville exprime les multiples facettes de notre être et de notre existence. Dieu ne nous fera pas retourner vivre tout nu dans un nouvel Éden. Ouf, se disent certains.
Avec un nouveau corps.
La vie avec Dieu n'est pas un renoncement à ce que nous vivons sur terre. C'est un accomplissement. Il mène à la perfection ce que nous vivons sur terre. Et dans cette cité céleste, Jésus a préparé pour chacun une place, pour tous ceux et celles qui croient en lui. Il le dit dans Jean 14, versets 2 à 3. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. » Ça, c'est ce que je dis souvent à mon fils. « En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher. » Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Alors, mes parents ont loué un gîte sur Internet. Ils pensaient qu'ils avaient une place préparée pour leur lieu de vacances. Zut, ça n'a pas marché. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour eux et pour vous qui croyez en Jésus, vous êtes sûrs d'avoir une place préparée d'avance au ciel. Quelle destination de rêve! Il suffit de croire en Jésus. D'ailleurs, là encore, on fait un parallèle avec Éphésiens 2, verset 19. Paul nous le rappelle lorsqu'il dit « Voilà pourquoi vous n'êtes plus étrangers ou résidents temporaires. » Et oui, nous sommes comme des étrangers, des résidents temporaires sur cette terre-ci. « Mais vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. » Il ne le met pas au futur. Il ne dit pas « vous serez concitoyens ». Il dit « vous êtes concitoyens ». Concitoyens, c'est le terme pour ceux qui habitent une cité. Et quand Paul dit cela, permettez-moi de penser qu'il parle déjà de la cité céleste. La cité céleste, c'est déjà une réalité en nous, dans nos vies, par la puissance de Christ. Alors, penchons-nous sur la description de cette cité. Petite visite guidée. Les guides touristiques commencent toujours par la muraille, n'est-ce pas? Une grande et haute muraille. Celle-ci fait pas moins de 44 coudées, soit une soixantaine de mètres, de quoi faire pâlir la muraille de Chine avec ses 17 mètres de hauteur maximum, n'est-ce pas? Alors, si Dieu a créé une nouvelle terre, un nouveau ciel, s'il a supprimé tout le mal, permettez-moi de poser la question, à quoi sert la muraille? Alors, je pense que la muraille, effectivement, a un but symbolique dans ce passage. Elle rappelle que la ville est exempte de tout mal. Aucun mal ne peut le pénétrer, ne peut la pénétrer. D'ailleurs, nous le voyons dans le verset 8, avec l'énumération de tous ceux qui ne pourront pas entrer, de tout le mal qui ne pourra pas entrer. Et puis, cette muraille fait assonance à l'image qu'utilisent les psalmistes de nombreuses fois lorsqu'ils parlent de la forteresse qu'est l'Éternel. L'Éternel qui sauve. Par exemple, dans Psaume 18:3, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » La Jérusalem céleste n'a peut-être pas besoin de murailles, mais notre vie actuelle sur terre on a grand besoin. Il est bon de nous rappeler que notre vie, notre foi, notre bonheur sont entre les mains de Dieu qui nous protège comme une haute muraille contre les multiples attaques de la vie. Un méchant nous agresse, un ami nous a trahis, des gens nous méprisent, nous nous retrouvons isolés. La muraille est là. Dieu est là. Il nous garde dans son amour. Il nous aide à faire la paix en nous, la paix avec lui, la paix avec notre entourage. Notre vie, c'est pas pire, c'est filoche. Pas de panique, Dieu est là. Il nous aide à nous centrer sur l'essentiel. Nous sommes en sécurité dans l'amour de Dieu. Jean nous donne encore d'autres détails sur cette fameuse muraille. Elle est soutenue par les 12 apôtres. D'ailleurs, cette image, on la retrouve aussi dans Philippiens 2:20. Lorsque Paul dit, « Dieu vous a intégré à l'édifice qui construit sur le fondement que sont les apôtres. Ceux-ci nous ont transmis l'évangile dont le message se trouve dans le Nouveau Testament. Ces textes nous aident à avoir un fondement solide pour notre foi. Ils nous aident à ne pas croire n'importe quoi. Ils nous protègent d'idéologies et d'influences néfastes. Et croyez-moi, il y en a dans notre société. Parfois, on ne les reconnaît pas forcément. Mais il n'y a pas qu'un seul apôtre. Dieu aime la diversité. Il y a 12 apôtres, 12 personnalités, 12 témoignages qui représentent la multitude des personnes qui forment le peuple de Dieu. Ces fondations de la Jérusalem céleste sont décrites comme des pierres précieuses de couleurs différentes et chatoyantes. Ainsi, le témoignage des uns et des autres sont comme un arc-en-ciel, tous différents, mais tous précieux et irremplaçables pour s'en tenir notre foi et la foi des autres. Mais la Jérusalem céleste n'est pas retranchée derrière sa haute muraille. Loin de là. Elle a de nombreuses portes. Qui se souvient du nombre ? 12. Facile, hein ? Il y a 12 fondements, 12 portes. Alors, les 12 portes portent chacune le nom des 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Dieu rappelle ainsi que le salut vient d'Israël. Il a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse 12, les versets 2 à 3. Je fais de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. En effet, c'est d'Israël que vient le Messie. Et cela nous est rappelé par ces 12 noms qui figurent sur les portes. Et en alliant le nom des apôtres à celui des tribus d'Israël, Jean indique que le plan de salut de Dieu s'accomplit depuis le commencement, l'ancienne alliance, jusqu'à la fin, dans la nouvelle alliance. Ainsi, Paul l'écrit aussi dans Éphésiens 2:20, Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, c'est ce qu'on a vu, ses prophètes, c'est l'ancienne alliance, et dont Jésus est la pierre principale. De plus, les 12 portes illustrent qu'il y a de nombreuses façons d'entrer dans la présence de Dieu. Une porte aurait suffi, mais il y en a 12. 3 à l'est, 3 à l'ouest. 3 au nord et 3 au sud. D'où que nous venions, nous avons le choix. Selon notre culture, notre origine et notre personnalité. 3, le nombre divin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une image subtile pour nous rappeler ces paroles de Jésus dans Jean 19. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Les portes restent ouvertes 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas prisonniers de Dieu. Nous ne sommes pas astreints à lui offrir un culte 24 heures sur 24. Nous sommes libres en Christ. Jésus dit, il entrera et il sortira. Nous sommes libres. Nous ne nous retranchons pas derrière les hautes murailles de notre foi. Seul avec Dieu, avec mes frères et sœurs et ma foi. Osons sortir, osons témoigner et bénir ceux qui ne font pas encore partie de la cité céleste. Osons les inviter à rentrer, eux aussi. Et l'orientation des portes aux quatre coins cardinaux met en lumière que des gens de tout horizon sont invités à entrer. Et là encore, Paul le dit dans Éphésiens 2:17, « Vous qui étiez loin et vous qui êtes proches, le salut de Dieu et la vie éternelle s'adressent à tout le monde. » Jean 3:16, « Dieu a tant aimé le monde. » Il ne va pas juste tant aimer moi et mon église, mais le monde. Les portes sont comme travaillées dans une pierre précieuse. Ainsi, il y a maintes manières de s'approcher de Dieu, et il n'y en a pas une qui soit moins noble qu'une autre. Souvent dans les murailles, vous avez la grande porte, n'est-ce pas, l'entrée principale, et vous avez les petites portes. Là, il n'y a pas de grande et petite porte. Toutes les portes ont la valeur égale. L'important, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Les dimensions de les portes ne sont pas précisées. On parle de perles. Les perles, c'est relativement petit, hein. Pour des portes, c'est quand même bizarre. Mais cela me fait penser au conseil de Jésus dans Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Il aurait pu dire par le trou de souris, je pense ici. En effet, je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. Les portes sont grandes ouvertes. La seule difficulté, c'est qu'elles sont étroites. Saint Augustin dit qu'elles sont probablement même un peu trop basses. C'est une difficulté pour ceux qui sont trop orgueilleux pour baisser la tête devant Dieu. Pour ceux qui sont trop orgueilleux et qui ne veulent y arriver par leurs propres moyens. Mais une fois la porte passée, nous pouvons nous redresser, nous pouvons souffler, nous pouvons vivre dans cette merveilleuse cité. Nous sommes en sécurité par l'amour de Dieu. Alors, après avoir décrit cette muraille, les portes et les fondations, on va faire un petit tour à l'intérieur. Je vous emmène. Alors, l'image est un peu surréaliste. Verset 18, Jean nous décrit une ville faite d'or pur, semblable à du cristal transparent. Alors maintenant, si vous allez chez votre bijoutier et vous lui dites « J'aimerais un collier d'or pur », je doute que même si vous prenez l'or le plus fin, il soit transparent comme du cristal. Dans la Bible, l'or figure la meilleure part de nous-mêmes, celle qui demeure éternellement devant Dieu, après que nous soyons éprouvés comme par Dieu. On compare souvent le jugement de Dieu à un creuset. Le creuset, c'est le four où l'orfèvre purifie l'or de toutes les saletés. Et ça, vous pouvez le retrouver dans Job 23, 10 et dans 1 Corinthiens 3, 12. Dieu a cet effet essentiel de nous purifier de l'intérieur. Il purifie notre être, nous débarrasse de nos travers, de nos impuretés, et en même temps, il nous rend transparents et lumineux comme le cristal. Il veut nous purifier de nos zones d'ombre, et nous pouvons enfin, selon la promesse de Jésus, faire briller notre lumière sur ceux qui nous entourent. Telle cette ville dont parle Matthieu 5, verset 14. Cette ville qu'on ne peut pas cacher au sommet de la montagne. Que votre lumière brille devant les hommes, le verset suivant. Jean parle aussi d'une place large au centre de la ville. Alors, dans certaines versions, on traduit ça par une grande avenue. Elle est également faite d'or pur, semblable à du cristal. La place centrale de la ville, c'est le lieu où tous se rassemblent, tous dialoguent, et l'avenue centrale de la ville, c'est l'avenue où il y a toutes les filles qui font du shopping en ce moment, ça papote. Dieu ne se contente pas de nous purifier nous-mêmes pour nous rendre purs comme de l'or, comme du cristal. Il purifie aussi nos relations avec les autres. Il nous donne d'avoir de l'amour dans les échanges, d'être transparent dans notre relation avec les autres, comme du cristal, d'être vrai. C'est peut-être de ce principe que parle Paul lorsqu'il parle des relations dans l'Église, disant dans Éphésiens 2, 21, « En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée. » Chacun a sa place. Chacun se respecte et considère l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte à l'Église. Jean dit ensuite que cette ville n'a pas de temple. Et cela peut paraître curieux, puisque le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, si vous avez bien en tête Éphésiens 2, les versets 21 à 22, Paul écrit « En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par son Saint-Esprit. » Alors, pourquoi cette absence de l'édifice où l'on adore Dieu? La réponse se trouve verset 3, tout au début d'Apocalypse 21. Jésus lui-même dit au sujet de la Jérusalem céleste, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui, avec eux, sera leur Dieu. » Pas besoin de temple. La ville tout entière est parfaitement sainte. Un saint des saints, sans péché, sans souillure. Dieu y habite chaque millimètre carré. Plus besoin de temple, de lieu saint mis à part du monde. Tout sera saint. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre vie. Lorsque nous regardons autour de nous, est-ce que notre monde est parfaitement saint? Non. Notre ville n'est pas parfaitement sainte. Mais Dieu établit sa présence en nous, nous qui formons son Église, par le sacrifice de Jésus, car il nous purifie de tout péché et nous sanctifie. C'est ce qu'on lit dans Tite 2,14. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne. Oui, dans l'éternité, il n'y aura pas de temple, car le vrai temple, le temple éternel, c'est Dieu lui-même et nous serons unis à Dieu. Mais sur terre, nous formons le temple, la présence matérielle de Dieu sur terre. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de voir cette cité dans le ciel? Cette cité qui vient du ciel. J'aimerais conclure sur 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir. Ce miroir, ce que nous voyons, ce reflet de la Jérusalem céleste. Mes amis, c'est nous. Est-ce que nous sommes à la hauteur? Est-ce que nous reflétons la ville d'or, de cristal, de pureté, de pierres précieuses? Est-ce que notre vie reflète cela? C'est ce qu'elle devrait. Nous reflétons souvent de manière peu claire, je suis d'accord. Mais alors, nous verrons face à face nous verrons Dieu face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Waouh! J'aimerais terminer par une prière, et après je vais vous donner des petits devoirs. Je suis maîtresse, on se refait pas. Jésus, je te remercie pour cette ville que tu nous prépares, cette merveille, cette beauté parfaite dans ta présence, cette vie en abondance avec toi, libre de tout péché, de tout mal, de toute souffrance. Et je te remercie parce que tu places déjà dans notre vie, par ton Saint-Esprit, par ta puissance, les prémices de cette vie, de l'au-delà. Certes, nous ne la vivons pas parfaitement, car nous vivons dans un monde atteint par le péché, mais tu l'établis toujours plus en nous, par ton pouvoir. Aide-nous à montrer la beauté de cette ville, à montrer la beauté de ta présence et de ta gloire à ceux qui nous entourent, pour ta gloire et pour le salut de ceux que nous aimons. Amen. Alors, qui a prévu d'écrire des cartes postales ? Oui ? Je vous ai préparé une petite carte postale pour vous. Quand moi j'écris des cartes postales, je ne peux pas m'en empêcher de dire tout ce que j'ai vu. Cette carte postale, elle est estampillée. J'ai déjà mis le timbre. Et elle porte le tampon « Nouvelle Jérusalem céleste ». Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date. Estampillé éternité. Petit exercice. Prenez-vous le temps pendant vos vacances de relire ce passage. Continuez, poussez jusqu'à Apocalypse 22:5. Et puis après, écrivez dessus, sur cette carte, tout ce que vous aimeriez montrer à quelqu'un. Vous pouvez le garder et prier pour cette personne. Si vous avez du courage, vous pouvez le lui donner en disant « Je t'envoie une carte postale du futur. Moi, j'ai lu dans un guide touristique que cette ville existe. J'ai envie d'y aller. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Je vous les distribue.
Et comment est-ce qu'on peut peut-être passer le...